Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour à toutes et tous. On refait le match, troisième de la saison, pour le meilleur de l'expertise, du décryptage, émission, vous le savez, tout public, avec respect, bienveillance, bonne humeur, rire et sourire, durant 90 minutes, comme un match de football, avant de retrouver Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, 20h-23h, RTL Foot, et l'intégralité de Suède-France, avec sur place, pour les commentaires, Philippe Sanfourche, bien sûr, et Robert Pires, pour l'avant et après match, que vous pourrez également suivre, Robert, sur M6 en compagnie de Xavier Domergue. Au sommaire, ce soir et jusqu'à 19h, l'équipe de France, les Bleus de Deschamps. Et cette question, après 10 mois d'abstinence, êtes-vous toujours amoureux des Bleus? Avec autour, évidemment, toutes les questions adjacentes qui fâchent ou qui ne fâchent pas. 19h, Messi reste finalement à Barcelone, on le sait depuis hier, aux environs de 18h30. Alors, tout ça pour ça, mais finalement, pour le meilleur ou pour le pire. Et puis à 19h30, on parlera évidemment du Paris Saint-Germain et du coronavirus. Fatalité ou manque de professionnalisme? Je sais que c'est une question qui agace. Je sais aussi que c'est une question qui ne concerne pas uniquement le Paris Saint-Germain. Nous aurons l'occasion d'en parler, bien évidemment. Et puis à 19h45, c'est la nouveauté depuis samedi dernier, les tirs au but. Alors je rappelle un peu le concept, toute une série de questions liées à l'actu, mais que nos amis ici même en studio ne connaissent pas, et on verra bien qui a le mental nécessaire ou qui se cache derrière cette séance de tirs au but. Vous les entendez déjà sourire et on les accueille avec grand plaisir. David Aiello, chroniqueur RTL Foot. Bonsoir David.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Baptiste Després, le retour pour le Figaro. Bonsoir David.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Bonsoir Baptiste, pardon. Florian Gazan, les grosses têtes, sa chronique également. Tous les samedis matins, 8h, la grosse cote chaque samedi. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian et bonsoir à tous.
Et le procureur dont fait le match inimitable, Gilles Verdez, bonsoir.
Bonsoir.
En régie pour relayer tous vos messages sur le compte Twitter RTL Foot et participer au débat, émission 100% interactive, filmée également sur RTL.fr et par l'intermédiaire de la toute nouvelle application disponible à Lizy, elle est belle, en trois clics, Baptiste Durieux, bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Réalisation Damien Béchiot, bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir
vous
à tous.
Vous écoutez RTL. Et vous avez bien raison, à tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match, David Aiello, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després. J'aurais presque eu aimé ce soir refaire le Tour de France. Et on a un petit coup sur le casque avec les 15 minutes perdues par Thibaut Pinot, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais...
Ça fait mal.
Sale semaine pour le PSG.
Ça met le bon. Ça met le bon. C'est vrai que c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Bon, l'équipe de France, après 10 mois d'abstinence, êtes-vous toujours amoureux de cette équipe de France? Autrement dit, et on développera évidemment tous les aspects de l'actualité équipe de France, est-ce que vous avez envie de cette équipe de France? Est-ce que vous avez envie de la Ligue des Nations? Est-ce que c'est une compétition qui vous intéresse?
Ah là, c'est deux questions différentes quand même. Est-ce qu'on a envie de la Ligue des Nations ou de l'équipe de France? Mais pour le coup, envie de l'équipe de France, bien sûr, ça fait plus de quasiment 10 mois. On les avait, c'était en novembre contre l'Albanie, qu'on les a perdus avec la crise du coronavirus. Et là, on les attend avec impatience parce que ce soir, je trouve que ce match n'est pas dénué d'intérêt. Il y a des choses qui vont être intéressantes. Il y a un vent de fraîcheur sur l'équipe de France avec Didier Deschamps. On en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, mais avec Upamecano, avec Kamavinga. Il y a le retour du banni Adrien Rabiot qui sera épié par tout le monde, qu'on annonce titulaire ce soir. On le verra aussi.
On va en parler également.
Et puis, il y a aussi ce nouveau système de jeu qu'on a vu à Tirana, qu'on a vu contre l'Albanie au mois de novembre dernier avec Didier Deschamps, ce fameux 3-5-2. Donc, on attend de voir un système de jeu qui a été fait aussi pour Antoine Griezmann, mais on en parlera j'imagine. Donc ouais, pour toutes ces raisons, j'ai envie de voir l'équipe de France.
Alors Baptiste Després est un excellent vendeur et on le remercie, car ça nous permettra évidemment d'avoir envie
je te prends la télé,
de parler des Bleus jusqu'à une deuxième, grosso modo 19h, puis de suivre le match, mais personne n'est d'un avis divergent là-dessus.
Moi je suis comme un fou,
Gilles Verdez.
Mais je suis pas d'accord avec lui, pour les deux raisons je suis amoureux. Je suis amoureux de l'équipe de France et je suis amoureux de la Ligue des Nations. C'est le seul vrai football, le football des nations. Le football de club m'ennuie. Quelques mercenaires qui se battent pour un amour du maillot qui a disparu. Ça m'a pas intéressé, ça m'a pas passionné. Mais la France, les Bleus, ça m'excite, ça me plaît. La Ligue des Nations, c'est mon euro à moi. On m'en a privé. M'en a privé.
J'exagère un peu.
Mais je suis comme un fou. Ça fait deux jours ou trois même que je regarde tous les matchs. Je suis tous les résultats, tous les buteurs. Je suis comme un dingue. Les 19 buts de la première journée, les 18 de la deuxième. Je suis comme un fou.
Mais vous mettez en opposition la Ligue des Nations, donc, et les sélections nationales, et la Ligue des Champions avec les clubs.
Moi, j'ai toujours préféré les compétitions nationales, d'équipe nationale, et là plus que jamais.
Alors moi, Gilles, j'ai un gros problème, parce que moi, je considère aujourd'hui...
Un seul,
mais là, on va commencer par le premier. Je considère qu'aujourd'hui, quand on aime le football, et là, je parle du jeu pratiqué, on adore la Ligue des Champions. Parce que le football, le meilleur football qu'on voit depuis maintenant 4-5 ans, je suis désolé, mais c'est le football des clubs. Alors après, il peut y avoir plein d'autres choses qu'on peut apprécier au niveau national, parce que ça exalte d'autres valeurs. Mais je suis désolé, mais le meilleur football qu'on peut voir, c'est de très très loin la Ligue des Champions. La Ligue des Champions de la saison passée était exceptionnelle. Je ne parle pas de celle qui vient de se terminer, mais de celle de juste avant. On voit quand même des choses, tout simplement parce que les entraîneurs ont le temps de travailler dans le temps, que les meilleurs joueurs sont regroupés au sein des meilleurs clubs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la Ligue des Champions, elle survole, elle écrase, elle piétine votre Ligue des Nations, Gilles.
On rappelle que la Ligue des Nations est censée remplacer tous les créneaux des matchs amicaux, internationaux.
Quelle bonne nouvelle !
Avec une deuxième bonne nouvelle pour les plus petites équipes. Il faut penser aussi à toute l'Europe du football, Florian Gazan.
Non, mais ce qui est intéressant,
qui a une occasion de se mettre peut-être un peu d'argent également dans sa trésorerie, alors qu'évidemment les Anglais, les Allemands, les Italiens ou les Français n'ont pas besoin de ça.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces matchs amicaux n'en pouvaient plus. Enfin, le France-Turkménistan qui jouait à 21h avec de la boue et des équipes
en
pas concernées.
En octobre-novembre.
Oui, ouais. Non, mais là au moins il y a de l'enjeu, c'est-à-dire que c'est une vraie compétition. Alors à double tranchant, parce que du coup les sélectionneurs qui la prennent au sérieux, genre Didier Deschamps, vont avoir tendance à pas trop faire d'essais pendant ces matchs parce qu'il a envie, il a la gagne. Mais au moins il y a de l'enjeu, les équipes se battent, ça fait toujours une ligne au palmarès. Alors c'est peut-être une ligne du niveau d'une Coupe Intertoto, mais mine de rien, en fin de carrière, avoir gagné la Ligue des Nations, pourquoi pas. Donc au moins mettons de l'enjeu, on n'en pouvait plus de ces matchs amicaux qui étaient là uniquement finalement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses des fédés, mais qui à regarder étaient épouvantables.
Donc compétition officielle qui remplace les matchs amicaux et avec la possibilité donc d'être dans un dernier carré pour une compétition finale qui aura lieu d'ailleurs au Portugal, et éventuellement pour une équipe qui se louperait en vue de la qualification en Coupe du Monde au Qatar, de jouer les matchs de barrage. Hier soir, dans l'émission d'Éric Silvestro, François Manardeau, qui suit de très près l'actualité équipe de France et qui participait à la séquence débat à 21h, expliquait cela très bien, et je reprends aussi l'un de ses arguments, l'argument financier également. C'est très bien que les Allemands, les Italiens, les Français ou les Espagnols voient peut-être avec un peu de condescendance, pas Didier Deschamps, mais un peu de condescendance cette compétition, mais il faut penser aussi au reste du football européen.
Mais oui, regardez l'Ukraine qui est toute heureuse d'être remontée, parce qu'il y a des montées, des descentes, donc il y a des vrais enjeux. Et par rapport à ce que disait David sur le jeu, je suis désolé, vous pouvez me prendre les 10 dernières Ligues des Champions, rien n'équivaudra à une Coupe du Monde. Vous allez me dire, les Bleus,
la Coupe du Monde.
Il disait tout à l'heure que le. Il disait tout à l'heure, j'ai peut-être tardé 30 secondes à lui répondre, mais il disait tout à l'heure que rien ne surpasse la Ligue des Champions au niveau du jeu.
Oui.
Mais non, rien ne surpasse la Coupe du Monde.
En termes de jeu, non. En termes de jeu,
à la Coupe du Monde, vous trouvez ça nulle part.
Mais en termes d'émotion, il se passe des choses. Évidemment, dans une Coupe du Monde, on est d'accord là-dessus. Mais en termes de jeu, le meilleur jeu qu'on voit aujourd'hui, c'est le football de club. Après, juste sur la Ligue des Nations, je suis d'accord effectivement sur la dimension sur la formule est intéressante dans ce qu'elle rappelle de la Coupe Davis avec ce système de montée-descente. Par contre, il y a un côté usine à gaz qui fait quand même que c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire que pour comprendre le mode d'emploi, c'est un petit peu gênant, quoi.
Illisible.
Donc c'est un petit peu illisible. Ça serait bien qu'on arrive à quelque chose. Bon, après on va lui laisser sa chance, hein, le produit est tout neuf. J'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de plus lisible.
Alors c'est ça le gros, excusez-moi, oui, Christian, mais c'est ça le gros problème de cette Ligue des Nations, c'est que honnêtement, vous allez dans la rue, personne ne comprend rien. Personne ne sait que ça existe et personne ne comprend rien. Après, ça n'empêche pas, je rejoins Gilles sur ce côté-là, le côté nation, et aussi Florian sur l'aspect de match de gala. Au final, quand vous voyez le groupe des Bleus, vous jouez contre la Suède, vous jouez contre la Croatie, contre le Portugal, ça va nous faire quand même de belles affiches jusqu'à dans les prochains mois.
À vous entendre ratiociner, les gars, j'ai l'impression d'entendre les journalistes de 1930 qui disaient, oh là là, prendre le bateau pour aller disputer une Coupe du Monde en Uruguay, jamais, qu'est-ce que c'est que ça, on n'ira pas regarder ce que c'est devenu. Il faut ouvrir la page de la modernité. La Ligue des Nations, c'est une épreuve qui est amenée à s'intercaler dans le calendrier international, à prendre vraiment sa place, parce que, regardez là ce qui s'est passé avec l'Euro, et la Ligue des Nations, elle a lieu alors que l'Euro a été interrompu. Voilà.
Gilles, je te pose une question, si tu dois regarder PSG Bayern ou Suède-France, tu vas choisir quel match?
Moi je choisis Suède-France. La France pour moi, coup d'envoi, je me mets
au rythme. Alors je pars en bateau,
je chante religieusement et je ne bouge plus jusqu'au coup de sifflet final.
Bon, il y a une chose qui est lisible, puisqu'on parle d'une compétition encore difficilement lisible, c'est la nouvelle option de Didier Deschamps et ce fameux 3-5-2. 3-5-2, ça veut dire que c'est une option peut-être un peu plus offensive au service de Griezmann, totalement meneur de jeu. Mais moi, très franchement, je vais jouer le, vous savez, le, ce qu'on appelle le footix de service.
Ah, c'est bien ça.
Non, mais 3-5-2, je veux bien, mais enfin, à quoi les latéraux sont toujours là. Je veux dire, il y a deux solutions.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ergotez sur le sur 3-5-2, 4-4-2
voilà,
ou...
voilà.
D'accord.
On part sur une base défensive avec 5 défenseurs. Mm. Ou alors, on dit que les latéraux n'existent plus et qu'ils sont maintenant des ailiers et
qu'ils ne c'est sont un peu pas le cas. Hein, souvent, ils ne savent pas défendre. Hein, donc,
non, bon. Enfin, vous ne pouvez pas dire ça quand même.
Mais ils savent attaquer les nôtres.
Non, mais après, il y a une réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que là, je donne complètement crédit à Didier Deschamps là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ce système-là, alors après, effectivement, ça peut être un 3-5-2 qui, en fait, maquille un 5-3-2, mais la réalité, c'est que de plus en plus d'équipes l'utilisent depuis 2-3 ans. Mmh. Donc, que Didier Deschamps, à un moment, on se dise, bon, moi, on va quand même pas fermer les yeux là-dessus, et on essaye un petit peu pour voir ce que ça peut donner aussi parce qu'il y a quand même eu pas mal de scénarios de match où on s'est rendu compte que l'équipe de France était un petit peu prisonnière de son seul schéma de jeu, de se dire, on va avoir une alternative dans la poche. Et au cas où, on l'aura, et notamment aussi en fonction des blessés. Moi, je trouve ça super intéressant.
Alors, on ne va pas faire que de la technico-tactique, évidemment, car les gens vont décrocher. Enfin, le 3-5-2, les amateurs de foot qui nous écoutent savent ce que c'est. On peut rappeler l'équipe, l'hypothèse de l'équipe présentée par Didier Deschamps, mais on peut être d'accord sur ce point-là. Un 3-5-2, c'est une option que Didier Deschamps avait proposée déjà contre l'Albanie, avec Griezmann, un vrai meneur de jeu, et une équipe peut-être un tout petit peu plus spectaculaire. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point?
Oui, c'est sûr. Voilà. Après, on est obligé de préparer un petit peu l'avenir. On a perdu notre meilleur allié gauche Blaise Matuidi et là on va perdre Olivier Giroud, donc forcément de toute façon il va falloir réinventer l'équipe de France, y compris son schéma tactique qui était quand même très très dépendant de ces deux joueurs.
Après, sur le plus offensif ou pas, ça dépend quand même du profil des deux latéraux.
Question d'animation, vous répondez, les techniciens.
Ouais, en plus, mais si là en l'occurrence c'est vrai que les deux joueurs qu'on devrait avoir dans les couloirs, donc c'est Digne et à droite
normalement c'est Mendy,
Dubois et Mendy, ouais.
Bah, voilà,
sans doute
Dubois à droite.
On a quand même des joueurs qui sont assez offensifs, donc effectivement on devrait aller sur quelque chose d'assez spectaculaire.
Upamecano, Varane, Kimpembe, les trois centraux, avec des pieds différents. Au milieu de terrain, donc Kanté,
Rabiot pour défendre.
Et
maintenant, le troisième, après, c'est Griezmann.
Oui, en fait, Griezmann en position avancée. Ça veut dire que Mbappé joue en pointe à côté de Giroud.
Dans l'axe, il va tourner autour de Giroud.
Il y a deux joueurs en pointe. Et là où je vous rejoins, c'est que ça permet de redonner à Griezmann toute son expression possible, sa plénitude, d'oublier ses frustrations barcelonaises, d'être vraiment lui-même dans ce système-là, en meneur de jeu libre de créer, donc Deschamps psychologiquement, c'est vrai qu'il veut conforter Griezmann et ce système-là il est idéal pour Griezmann.
Il a été excellent en Albanie en novembre dernier, ça a surpris tout le monde qui joue en 3-5-2, il a été vraiment très très bon, alors que déjà à cette époque-là il était plutôt en dedans, comme dit Gilles, avec le Barça. Mais pour revenir à votre question, je trouve qu'on taxe souvent Didier Deschamps d'être frileux, de rien tenter, de rien essayer, etc. Là, pour une fois qu'il va essayer quelque chose, qu'il met en place, alors entre guillemets dans la durée, parce que le dernier match était en novembre, donc là forcément il y a eu beaucoup de mois entre les deux, mais je trouve que c'est une bonne chose. La Ligue des Nations est aussi intéressante pour ça, parce que vous pouvez tenter des choses. Là il va tenter Upamecano, il va relancer Rabiot, il va tenter Griezmann, comme ça je trouve que c'est pas des désintérêts.
Mais qui taxe Deschamps d'être frileux?
Beaucoup, la frilosité.
Moi j'ai vu les Français enivrés de bonheur après la victoire en Coupe du Monde.
Ah non, ça c'est autre chose.
Ils taxaient pas Deschamps de frileux. C'est quelques observateurs frustrés.
Frustrés, je sais pas,
qui ont oublié ce qu'est le vrai football.
Mais c'est des observateurs qui disaient que l'équipe de France jouait mal, on jouait toujours en 4-4-2, qu'on ronronnait, etc. depuis la fin de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, pour le coup, on va voir comment ça va se passer, mais ça permet aussi d'éviter un peu le ronronnement.
Alors, Baptiste, si je peux me permettre, c'était l'une des questions de On refait le match la semaine dernière, et je me suis fait assassiner sur les réseaux sociaux avec une question un peu caricaturale, mais qui voulait dire. Merci, David, ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire est-ce que les anti-Deschamps vont se décoincer un peu? Car effectivement, le retour de Rabiot, on va en parler dans un instant, Upamecano et une option un peu plus offensive permet de constater que Deschamps sait aussi être à l'écoute des nouvelles options et de ne pas rester dans un pragmatisme permanent.
Ouais, après, c'est vrai que cette image-là, elle n'est pas sortie de nulle part non plus. Il a été quand même pendant longtemps attaché, je ne vais pas dire prisonnier, mais attaché à un système tactique qui lui allait bien et qui lui a permis de remporter le sacre mondial. Donc, moi, encore une fois, il y a deux choses. Il y avait cet aspect-là qui était l'aspect tactique sur lequel il était très conservateur. Et puis après, il y avait les joueurs sur lesquels il a toujours été très ouvert. Et la preuve encore avec le retour de Rabiot. Et puis pas parce qu'il y en a eu d'autres.
Ouais, mais justement, Rabiot, c'est comme une forme de pragmatisme parce que Pogba n'est pas là, Tolisso n'est pas là,
Il aurait aussi pu ne pas le rappeler comme il a fait avec d'autres.
Réseaux sociaux, les amis, car c'est une émission 100% interactive en régie avec Baptiste Durieux.
Oui, des auditeurs qui sont nombreux à réagir. Alors, est-ce qu'ils sont contents du retour de l'équipe de France? Loïc est très content. Il nous dit: je suis ravi, défense à 3, retour de Rabiot, première d'Upamecano, entrée potentielle avec Camavinga et puis Griezmann qui va pouvoir rejouer au football très loin de Lionel Messi. Que des bonnes nouvelles et plein d'excitation avant ce soir. Message de Karl qui est un peu plus pessimiste. Ça fait toujours quelque chose de revoir les Bleus, certes, d'entendre la Marseillaise, mais on sait tous qu'après 5 minutes de jeu, ça va se terminer comme le Tour de France. On va faire la sieste et pour être réveillé par un but de Giroud à la 88e minute. Et puis le message de Simon, tiens, sur la Ligue des Nations: les vrais champions ne négligent rien, les vrais fans de foot apprécient tous les trophées. La Ligue des Nations, je n'y vois que du positif.
Et c'est tant mieux, on fait le match suite après la publicité en compagnie de Gilles Verdez, David Ayello, Florian Gazan, oui, et Baptiste Després. Je vais y arriver.
Je vais vous l'écrire.
C'est le début de saison pour tout le monde. Et les amis, on va parler du cas Adrien Rabiot. Je l'ai bien prononcé, Adrien Rabiot, après la publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h49, on attend tous vos messages évidemment sur le compte Twitter @RTLFoot, émission filmée si vous vous rendez sur le site internet RTL.fr ou la nouvelle application en trois clics. Elle est formidable. Autour de moi, David Ayello, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després pour parler d'Adrien Rabiot. Je rappelle la question générique, hein, après 10 mois d'abstinence, êtes-vous toujours amoureux des Bleus? Votre réponse dans une dizaine de minutes, ce sera oui ou ce sera non. Mais Adrien Rabiot, c'est un nouveau cas à examiner, à décortiquer au sein de cette équipe de France. Conférence de presse ou pseudo-conférence de presse cette semaine, prise de parole d'Adrien Rabiot pour dire finalement qu'il n'y avait jamais eu de problème avec Didier Deschamps.
Bah, du coup, on peut lier d'ailleurs les deux questions, les deux sujets, à savoir est-ce qu'on est toujours amoureux. En tout cas, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'arrive pas à être amoureux d'Adrien Rabiot quand il fait ce genre de sortie. Un côté un petit peu amnésique, je sais pas où, peut-être qu'on est dans le déni, lorsqu'il vient dire que il comprend pas pourquoi est-ce qu'il aurait dû faire ses excuses, qu'en gros il s'est jamais rien passé. Je vais juste lui rappeler que dans le contenu de son mail, à un moment, il a quand même dit que sa lettre, il n'y avait aucune, on rappelle juste la lettre qu'il avait envoyée à Didier Deschamps pour justifier son refus d'être sélectionné à la Coupe du Monde en tant que remplaçant, il n'y avait aucune logique sportive à ne pas le sélectionner. Ça, pour moi, c'est l'accuser soit d'incompétence, soit de malhonnêteté, indirectement. Donc si ça ne méritait pas, entre quatre yeux, hein, des excuses ou à minima...
Des regrets. Le champion est orgueilleux, les excuses, vous les aurez jamais.
Oui, peut-être, mais je voulais juste lui rappeler ça, qu'à mon avis, il a été un petit peu trop loin dans sa réaction.
Gilles Verdez.
Rabiot a bien des torts, mais vous imaginez Rabiot arrivant en conférence de presse lors de son retour, à quelques jours d'un match quand même très important, dire « je m'excuse, j'ai fait des erreurs ». C'était trois jours de débat et de polémique.
Mais non, au contraire.
Évidemment que Deschamps lui a dit, évidemment qu'en face à face, Rabiot a dit « je m'excuse, coach », et Deschamps lui a dit « surtout, rien en conférence de presse, c'est réglé entre nous ».
Vous supputez, mon cher Gilles,
je connais Deschamps, c'est évident que c'est ça. Il lui a dit « mais ne va surtout pas dire « je m'excuse », on va en parler pendant trois jours, ça va pas ramener ton match ».
Pourquoi il l'envoie en conférence de presse dans ces cas-là? Il ne fait pas faire de conférence de presse. Forcément, on sait que ça va tourner autour de ça.
C'est important de rappeler que c'était une conférence de presse. En fait, les questions ont été envoyées à cause du coronavirus. Hein. Ça s'est passé à Clairefontaine. Les journalistes ont envoyé leurs questions la veille au soir à destination du service communication qui les a répercutées. Je fais une erreur ?
Non, pas du tout. Toutes les questions étaient posées.
Voilà.
Parce que souvent,
toutes
on peut dire...
Voilà,
ouais, exactement.
Voilà.
Les journalistes ont envoyé,
ce n'était pas une vraie conférence de presse avec les journalistes en face de Rabiot.
Non, rien à voir.
Susceptible de relancer Rabiot quand la réponse n'est pas satisfaisante.
Exactement. C'est exactement ça.
Donc Florian ?
Oui, non, mais je veux dire que dans ces cas-là, c'est pas la peine de faire communiquer Rabiot, ou alors après le match, ou entre les deux. Pourquoi là, avant le match, on sait très bien de toute façon qu'il va être mal à l'aise. On a vu les quelques images de Rabiot, on a l'impression qu'il passait l'oral du bac, mais qu'il n'avait pas révisé, quoi. Ça renvoyait pas une image de grande sérénité. Finalement, c'est mettre de l'huile sur un feu qui n'existe pas. Voilà, Rabiot est de retour. Excuse, pas excuse. De toute façon, ça va se régler entre Deschamps et lui. C'est limite pas notre problème. À partir du moment où Didier Deschamps le fait revenir, on part du principe qu'il lui a pardonné. Donc,
oui, enfin, excusez-moi, il y a aussi une sorte, entre guillemets, je voudrais pas alourdir le cas de Rabiot, mais une sorte de mépris vis-à-vis de ses partenaires, car refuser d'être dans une liste de réservistes, n'exprimer aucun regret, c'est quand même également faire fi de ceux qui ont accepté éventuellement d'être sur cette liste de réservistes, et puis même par rapport aux 23 champions du monde, c'est dire mais qui tue Rabiot pour refuser cela et ne pas ensuite t'excuser.
Et puis quand même, on peut se dire aussi qu'en termes d'image, là où je vais pas être d'accord avec Gilles sur l'intérêt ou pas d'avoir fait des excuses, Je pense, moi, au contraire, que ça aurait été tout à son honneur, ça l'aurait élevé, ça l'aurait grandi, de venir, de dire, écoutez, effectivement, je suis encore un jeune footballeur, sous le coup de l'émotion, et ça démontre aussi mon attachement au maillot bleu, je me suis trompé, j'ai mal réagi. Je suis désolé. Voilà. Moi, je pense que ça aurait, au contraire, été très bénéfique
mais
pour lui.
Mais c'est pas Rabiot, ça.
Bah oui, mais moi, je. Voilà. Moi,
c'est
moi,
pas
je,
dans son moi, caractère. On se rappelle la seule fois où il s'est excusé, c'était l'histoire, la Coupe de la Ligue, vous savez où il était parti, le bus était parti sans l'attendre parce qu'il était en retard, parce que Zlatan a dit, allez, on y va, parce qu'il y a des embouteillages. Et donc, du coup, il était rentré chez lui, Rabiot, après, il avait été sanctionné par le PSG, et il s'est excusé dans une interview à l'équipe, mais genre, 3 ans après. Donc, peut-être que dans 3 ans, il s'excusera. On va attendre, c'est tout.
Mais moi, je l'ai trouvé. Pardon, Gilles.
Non, allez-y.
Je l'ai trouvé un peu penaud sur cette vidéo, presque gêné. Il n'y avait pas de question de journaliste, mais les journalistes n'étaient pas là. Mais je l'ai trouvé gêné parce que on le sentait pas serein. On le sentait. Il est timide quand même, Adrien Rabiot. On l'a vu à nouveau. Et puis dans son explication, il dit qu'il n'a pas d'excuses à donner. Et après, il dit notamment au cours de sa conférence de presse que ses 6 premières sélections n'ont pas été bonnes, etc. Donc il reconnaît qu'il a jamais été bon en équipe de France. Donc il y a 2 ans.
Mais qu'il aurait mérité d'être.
Mais qu'il aurait mérité. Donc il y a quelque chose qui est ambivalent. Pas cohérent, qui va pas. Et c'est manque de cohérence.
Mais moi, Christian, j'ai été choqué comme vous quand Rabiot avait refusé d'être réserviste. Mais pour répondre à votre question, ses coéquipiers n'ont jamais chargé Rabiot, à part Zlatan dans le bus. Rabiot, partout où il passe, ses coéquipiers l'apprécient pour son jeu, pour ce qu'il est. Même ses entraîneurs le plébiscitent. Et quand il y a des débordements de Rabiot, ils disent « ce n'est pas le Rabiot que je connais ». Sous-entendu, c'est l'entourage de Rabiot qui parfois délire dans les communiqués. Et ça, tout le monde le sait dans le milieu du foot, c'est ce qui lui permet d'être exonéré de responsabilité. Je trouve qu'il s'en tire bien, moi. Mais aujourd'hui, Deschamps, je pense, a compris que Rabiot a été manipulé par son entourage pour ne pas être réserviste. Noël Le Graët a compris ça, ils ont fait le point. Ils n'ont pas absous la mère de Rabiot. Ah,
tu veux des excuses de la maman alors ?
Non, mais Gilles, en même temps, on ne parle plus d'un joueur qui a 18 ans. Donc je veux dire, aujourd'hui, il serait quand même temps, à un moment, si effectivement la responsabilité incombe à son environnement proche, et en l'occurrence à sa maman qui est aussi son agent, on le rappelle, bah, peut-être qu'à un moment, il faudrait dire à sa maman, écoute, tu restes ma mère évidemment, mais en termes d'agent, je vais prendre quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus inspiré, et puis en plus, quelqu'un dont on n'aura pas les mêmes relations. Donc à un moment, on ne peut plus, à l'âge qu'il a, et avec l'expérience qu'il a, se cacher derrière le fait que c'est son entourage qui serait nuisible.
Et si on parle du jeu, là, pour le coup, vous êtes impatient de voir Rabiot pour sa normalement 7e sélection.
On est clairement impatient parce que déjà il va être titulaire. On a envie de le voir dans ce nouveau système de jeu. On a envie de voir son comportement en équipe de France. On l'a vu honnêtement. Il a quoi? Il a 6 sélections au compteur. C'est sa 7e ce soir. Il a fait très franchement 6 sélections. On va pas dire insignifiantes, mais très moyenne. Et on reste quand même sur le Adrien Rabiot qui est excellent avec la Juventus depuis X semaines. Même dans une période délicate avec le coronavirus, il est super bon. Honnêtement, il a envoyé Matuidi à Miami parce que depuis quelques mois, c'est lui le titulaire. Donc rien que pour ça, on a envie de le voir ce soir en équipe de France. Et on a envie de voir un autre visage de Rabiot en équipe de France.
Deschamps c'est ce qu'il fait, mais là, pour le coup, est-ce qu'il ne profite pas, du forfait de Pogba, coronavirus?
Si.
Et aussi de l'absence de Matuidi. Il n'est pas mal.
Mais Tolisso n'est pas là, Dombélé n'est pas là, il y a plein d'absents. Mais pourquoi Deschamps élargit autant? Parce qu'avec le Covid, avec les incertitudes de ce virus et jusqu'à l'Euro, toutes les listes pourraient être des listes conjoncturelles. Vous pourrez avoir potentiellement à chaque liste, comme au PSG en ce moment, 6 joueurs positifs, des absents, donc vous êtes obligé d'élargir. Si vous restez sur votre groupe de base, que Rabiot n'est pas là et qu'au moment de l'Euro, vous avez 3, 4, 5 titulaires absents, il faut bien que Rabiot ait été incorporé. Donc Deschamps était un peu contraint et forcé de prendre Rabiot.
David Ayello. Après, sur le jeu, on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur fabuleux, merveilleux, qui a des capacités athlétiques hors normes, et on l'a vu d'ailleurs sur le but incroyable qu'il a marqué aussi avec la Juve, et technique également, c'est vrai. Maintenant, il y a quelque chose qui lui manque pour exploiter au mieux ses capacités, c'est la régularité. C'est-à-dire que aussi bien, bon, en équipe de France, on l'a dit, mais surtout au Paris Saint-Germain qu'avec la Juve, on n'a jamais vu un Rabiot régulier sur même une saison complète. On l'a vu par moments très bon sur 3, 4, 5, 6 mois, mais on n'a pas cette régularité. Donc évidemment qu'on a envie de le voir, mais non, on a surtout envie de le voir désormais s'imposer sur la distance.
Adrien Rabiot en équipe de France, probablement titulaire ce soir, coup d'envoi 20h45, Suède-France, sur les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux.
Oui, Christian, et Mathieu qui reprend votre formule et qui nous dit « Après des mois d'abstinence, je suis toujours amoureux d'Adrien Rabiot, de son jeu, du joueur qu'il est, heureux de son retour et de ce qu'il va pouvoir apporter en bleu. » Message de Bastien qui défend aussi Adrien Rabiot. « Tout mauvais garçon qu'il est dans l'opinion publique, Rabiot est un mec bien. Pas du genre à pourrir un vestiaire, avoir une influence négative sur ses coéquipiers. Demandez aux supporters du PSG à l'époque ou aux joueurs qui le connaissent vraiment. » Et puis message de Dimitri qui est un peu plus négatif. « Rappelons quand même que Rabiot est là car beaucoup d'absence. On en reparlera quand les Pogba, Tolisso, Ndombélé et Matuidi seront de retour. »
Et vous continuez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Le rituel de cette émission, après le débat, la question, c'est oui, c'est non, c'est pas peut-être. Messieurs, équipe de France, après 10 mois d'abstinence, êtes-vous toujours amoureux des Bleus? Baptiste Després pour le Figaro.
Plus que jamais.
Florian, oui ou non? Oui.
Oui, oui, oui.
Florian. Florian. Florian Gazan.
Pour moi, c'est un oui.
Amoureux fou, il y a mon nouveau héros, c'est Kamavinga. Alors lui, je l'aime plus que tous les autres.
On en a pas assez parlé, mais il sera pas titulaire.
Mais
ce
il va
soir,
jouer, il va jouer. C'est le nouveau Thierry Henry, l'icône.
David Aiello.
Oui, mais moins de la Ligue des Nations.
Allez, la publicité, les informations de 19h. Restez avec nous. On fait le match jusqu'à 20h. Ensuite, 20h, 23h, RTL Foot. L'intégralité de Suède-France. Derrière les infos de 19h, le deuxième débat de cette émission. Lionel Messi reste finalement à Barcelone. Tout ça pour ça, mais finalement pour le meilleur ou pour le pire. A tout de suite.
RTL, on refait le match. Tour de France 2020.
Le prix Antargaz de la combativité.
Pour la 8e étape du Tour de France 2020 reliant Cazères sous Garonne à Loudenvielle, le prix Antargaz de la combativité a été décerné au coureur français Nance Peters de la formation AG2R La Mondiale. Bravo à lui.
Les informations de 19h. Avec Sébastien Roussel.
Les obsèques d'Annie Cordy seront célébrées samedi prochain à Cannes, annonce ce soir de sa nièce. Nous allons essayer de permettre à ceux qui le souhaitent de lui rendre hommage, a-t-elle déclaré. L'artiste belge s'est éteinte hier soir à l'âge de 92 ans. J'ai perdu une sœur, confie Lynn Renaud sur RTL. L'État fait appel des décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et Lyon. Tous deux ont demandé aux préfets du Rhône et du Bas-Rhin de modifier leurs arrêtés, généralisant le port du masque en extérieur. L'obligation ne doit pas concerner les lieu où il y a peu de monde, selon eux. Le Conseil d'État statuera demain matin. Un peu de lest pour les bars et restaurants des Bouches-du-Rhône. Ils pourront finalement fermer un peu plus tard, chaque soir, 00h30 au lieu de 23h, décision de la préfecture. François Baroin sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Le maire de Troyes entretient le suspense. Invité vedette de l'université d'été des Républicains au Port Marly dans les Yvelines, il annonce qu'il prendra sa décision à l'automne. Et c'est à l'occasion de ce rassemblement que le président des Républicains a annoncé la mort d'Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, figure de la droite gaulliste, s'est éteint à l'âge de 81 ans. C'est lui qui avait conquis la ville normande après un long règne des communistes. « Tu es mon guide, mon seigneur et mon maître », a écrit en italien Édouard Philippe sur Twitter pour rendre hommage à son prédécesseur. Une deuxième victoire française sur le Tour de France. Après Julien Alaphilippe, c'est Nance Peters qui s'impose lors de la 8e étape dans les Pyrénées. Grosse désillusion en revanche pour son compatriote Thibaut Pinot, le coureur de la Groupama FDJ, désormais largement distancié au classement général, doit abandonner ses rêves de victoire. Le Britannique Adam Yates conserve le maillot jaune. Du foot ce soir et le coup d'envoi de Suède-France à 20h45. Première journée de la Ligue des Nations et premier match pour les Bleus après 10 mois d'absence. Confrontation à suivre dans RTL Foot, c'est de 20h à 23h avec Eric Silvestro et Philippe Sanfourche, mais aussi Robert Pires pour l'avant et l'après-match. Suède-France à suivre également sur M6. Un mot de rugby et la suite de la première journée de top 14. Deux matchs en cours. À la mi-temps, Lyon mène 16-13 face au Racing 92. 17-10 pour Castres sur la pelouse d'Agen. Tout à l'heure, La Rochelle s'est imposée à domicile face à Toulon 29-15. La météo demain, du soleil dans le sud-est, des nuages partout ailleurs avec même quelques pluies entre la Bretagne et la Normandie. Les températures en matinée comprises entre 8 et 20 degrés. Dans l'après-midi, comptez 20 à Lille et Rouen, 22 à Paris, 26 à Grenoble et 31 à Nîmes. RTL, 19h04, la suite dont refait le match avec Christian Olivier.
Merci Sébastien. Prochaines informations à 20h avec un rappel de titre ou non, même pas. On basculera tranquillement.
Vous décidez.
On basculera, on verra. Selon intérêt, comme on dit.
Voilà.
En revanche, juste derrière la publicité, on parlera de Lionel Messi. Ça vous intéresse le cas Lionel Messi?
Ah bah, évidemment.
On est d'accord avec cette question, tout ça pour ça, mais finalement pour le meilleur ou pour le pire. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Et dès 20h, on ne perdra pas de temps. On retrouvera toute l'équipe d'Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, bien sûr, Quentin Vasselin, Philippe Sanfourche en Suède, Robert Pires en Suède également, pour évoquer les préparatifs, puis le match Suède-France, RTL Foot, jusqu'à 23h. Dans l'immédiat, on fait le match avec David Aiello, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després, bien évidemment, pour parler de Lionel Messi. Alors messieurs, Lionel Messi reste finalement à Barcelone.
C'est Keda.
Et depuis hier soir, environ 18h30, je n'entends que la même musique. Mais on savait qu'il allait rester à Barcelone. Il n'y avait pas d'autre issue.
Non, on savait pas quand même. C'est une immense bouffonnerie, mais elle s'est réglée sur le coup de 17h30 à la suite d'une interview montée chez lui sur deux chaises minables avec un journaliste complice.
En short.
Voilà, parce qu'il savait plus comment s'en sortir. Non, il devait vraiment partir. Et puis il s'est aperçu que ses avocats étaient nuls, qu'il y avait un risque majeur que s'il parte, s'il actionne sa clause, Barcelone l'attaque en justice. Pas lui qui attaque Barcelone. Barcelone l'attaque. Barcelone aille au TAS et que le TAS ordonne au clan Messi de payer 700 millions. Donc Messi a eu peur et que Neymar fasse des caprices, d'accord. Mais que Messi dise je pars, je reste, des caprices comme ça, je suis mais extrêmement déçu de Messi.
Ça laisse un froid dans le studio.
Oui, moi je suis pas complètement surpris parce qu'on avait quand même depuis pas mal d'années maintenant des échos pas très sympathiques sur le personnage de Lionel Messi. Je parle pas du joueur qui est évidemment absolument merveilleux et extraordinaire. Voilà, je trouve que ça va venir un petit peu quand même ternir le personnage et la personnalité de Messi. Il y avait déjà quand même cette histoire de son histoire bizarre avec son pays natal, avec l'Argentine, où on sait qu'il est loin d'être prophète en son pays et que ses échecs répétés en sélection ont un petit peu écorné son image là-bas. Là, il va y avoir cette histoire-là. Il avait effectivement l'occasion également de sortir par la grande porte de ce club. Il a déjà marqué l'histoire de ce club, mais quand même, la sortie, ça compte aussi dans une carrière. Là, je vois pas comment il va pouvoir réussir sa sortie. C'est-à-dire que si, et moi je vais mettre un si, s'il reste, parce que moi, ce qui s'est passé hier soir ne fait pas dire que c'est terminé. On en a vu d'autres dans cette histoire-là, et on rappelle que cette année, le mercato, il va se prolonger. Donc si effectivement on en reste là, je vois pas comment Messi va pouvoir réussir sa sortie s'il fait effectivement une dernière année. Là, il va rester à contre-cœur. Donc son entraîneur lui avait dit bon, ok, tu vas rester, mais on connaît Ronald Koeman, c'est pas le genre à lui faire des courbettes. Donc je vois pas comment ça s'est pour être positif.
Je précise que aujourd'hui il ne s'est pas présenté au centre d'entraînement et que d'aucuns disent qu'il attend de passer à son domicile les tests coronavirus pour savoir s'il est apte afin de retourner donc à l'entraînement. Mais première séance d'entraînement prévue aujourd'hui sans Lionel Messi.
Mais dans ce dossier, on a l'impression qu'il n'y a aucun vainqueur au final. Gilles l'a dit, la victoire. Honnêtement, je ne comprends pas, moi, le rôle des avocats de Messi avec cette histoire de clause. On a l'impression qu'on sort de nulle part. On parle quand même d'un garçon qui gagne 100 millions bruts. C'est quand même phénoménal. Aujourd'hui, quand vous pensez qu'il va partir avec la clause, pas la clause, etc.
Il gagne autant que ça, 100 millions bruts?
C'est monstrueux, Lionel Messi.
Tout revenu confondu.
Hors terrain. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a personne de vainqueur dans ce dossier, si ce n'est Bartomeu, parce que lui, il sauve un peu la face, parce que ce sera le président qui a dit non à Messi et qui n'aura pas vendu Messi. Bien entendu, comme dit David, si, bien entendu, il ne part pas d'ici les prochaines semaines. Bon, lui, on sait que son avenir est scellé, parce qu'aux prochaines élections, ce sera rideau. Mais après, au niveau sportif, est-ce que Barcelone est gagnant? Alors, effectivement, sur le papier, vous gardez Messi, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Après, il faut voir dans quel état sera Lionel Messi toute l'année, alors que ça fait, comme il l'a dit, ça fait X mois qu'il souhaite quitter son
Barcelone
club.
Barcelone est gagnant. C'était peut-être sur l'occasion de le revendre et de ne pas attendre justement la fin de son contrat la saison prochaine et de se débarrasser d'un salaire important pour reconstruire, puisque c'est la volonté du nouvel entraîneur.
Oui, et accessoirement récupérer un peu d'argent, parce qu'on sait que les finances de Barcelone, c'est quand même pas ça, quand on voit leurs impossibilités de recrues, de transfert. Neymar, s'il n'est pas revenu au Barça, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour le faire revenir, tout simplement. Après, moi j'ai une pensée émue pour Antoine Griezmann, qui pendant 10 jours a dû penser qu'il allait enfin pouvoir jouer au Barça, et puis finalement, on va revenir dans un statu quo. Alors certes, Suarez sera peut-être plus là. Ça, c'est aussi un élément qu'il va falloir prendre en considération, parce que Messi va revenir dans une équipe qui ne sera plus vraiment le Barça de Messi. On sent que Koeman est arrivé et que lui, il a vraiment envie de faire les choses autrement. Je pense que Messi, surtout, a perdu énormément de son statut dans cette histoire et qu'il va redevenir un peu la queue entre les jambes dans le club. Après, c'est un grand champion. Je le vois mal faire semblant de mal jouer au football. Il a envie de gagner des titres. S'il voit que l'équipe que Koeman va monter est performante, il remettra tout ce qu'il faut pour.
Là où il a été obligé de se coucher, c'est qu'il s'est rendu compte que Manchester City, avec tout son argent, ne bougeait pas, que le PSG ne bougeait pas vraiment, que les clubs se sont dit oulala, dans quoi on s'engage, c'est pas clair, on risque nous aussi de devoir payer 700 millions, donc tout le monde s'est retiré. Mais c'est évident que Messi, il est fragilisé psychologiquement. Alors, il fragilise tout le monde. le président, mais non, le président est un président fantoche qui va sauter la prochaine réunion des sociaux.
Il va sauter, mais il empêche que Messi quitte le club.
Prochaine élection au mois de mars, je crois.
Ouais, l'entraîneur qui dit à Messi, finalement, j'ai pas beaucoup besoin de toi, ton pote soirée, je vais le dégager, qui confie les clés du camion à Griezmann, comme disait Florian, il est fragilisé avant même d'arriver Koeman, il va rester 3 mois. N'excluons pas que Messi ait dit, ok, je me couche, mais je veux les garanties, et que son copain Suarez, finalement, reste aussi. Donc tout est possible dans ce club, et à mon avis, enfin, vu le statut de Messi, c'est 6 ballons d'or, mais pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris de dire je pars alors qu'il n'avait pas les garanties? Pour moi, il remet en question le statut d'idole qu'il avait et de meilleur joueur de l'histoire du football.
Et surtout, il remet en cause également la politique sportive de Bartomeu et des dirigeants, d'Éric Laminade également, avec une violence inouïe dans ses propos quand il dit, j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici en me battant pour des titres, mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, les dirigeants font du bricolage et bouchent les trous au fur et à mesure.
Très sympa pour les gens.
J'ai trouvé ça extrêmement protège les trous avec Griezmann ou pas là.
J'ai trouvé ça quand même extrêmement lâche de sa part, parce que David Aiello, quand il dit ça, il y a 2 ans, le Barça est en demi-finale de Ligue des Champions après avoir remporté la demi-finale aller contre Liverpool 3-0. D'accord.
Oui.
Le retour, le 4-0. Il était sur le terrain, il a été fantomatique. Je veux dire, là, à un moment, le projet, etc., ce projet-là, il avait quand même permis au Barça d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions et de mettre 3-0 à l'équipe qui a ensuite allait dominer l'Europe. Donc, je trouve qu'il se défausse un petit peu quand même trop sur les dirigeants, sur le fait qu'il y a quand même eu des investissements, c'est pas une équipe, il y a quand même des bons joueurs qui sont arrivés. Moi, j'ai un petit peu du mal quand même avec, avec ce comportement.
Avant de parler effectivement de l'association avec Griezmann, parce que Griezmann, il y a 48 heures chez nos amis du 12h45 d'M6, disait que Messi resterait au club, qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il se réjouissait. C'est possible qu'il se réjouissait.
Il
avait déjà l'information.
C'est mieux de dire ça que le contraire.
Il ne peut pas dire autre chose. On va en parler effectivement du cas Griezmann, parce que Griezmann, Dembélé dans un registre un peu différent, il a besoin aussi d'être peut-être un peu moins blessé à Barcelone, mais Griezmann qui pouvait avoir avec Ronald Koeman, le nouvel entraîneur, les clés du camion catalan, ça risque quand même de lui couper les ailes.
Il va repasser sur le siège Pachalet, quoi.
Il va y avoir une pression quand même sur cette saison. Bah, moi, je vois pas comment ça peut bien se passer. C'est pour ça que je dis, je reste méfiant sur le fait que ça va en rester là. Parce que dès qu'il va y avoir le moindre, vous savez comment ça se passe en plus en Espagne, le moindre regard de travers de Griezmann, ça va passer en boucle sur tous les sites internet et toutes les chaînes espagnoles. Enfin, ça va être invivable. Ça va être invivable pour tout le club. Donc, soit il gagne d'emblée tous leurs matchs et ça se passe bien et la saison se goupille bien, mais au moins de petits incidents, ça va être ingérable.
Mais il y a une question qui va être centrale, Gilles et Florian l'ont abordé, c'est Luis Suarez. Si Luis Suarez quitte le FC Barcelone, comme c'est dit depuis quelques semaines,
mais il part en Italie.
C'est pas aujourd'hui, c'est pas officialisé à 300%. Il n'y a pas eu un communiqué.
Mais Koeman se renie à ce moment-là.
Déjà l'ombre de Koeman.
Si Luis Suarez quitte le FC Barcelone, on peut quand même se dire que Ronald Koeman peut, à défaut d'avoir une assise sur l'équipe, il met en place certaines choses. En revanche, s'il y a un rétropédalage, parce que Lionel Messi et Luis Suarez, c'est quand même copain comme cochon, et s'il y a un rétropédalage là-dessus, on peut douter quand même, honnêtement, je suis d'accord avec Gilles sur le fait que Mann est quasiment condamné, parce qu'il l'a averti d'emblée, c'était un de ses premiers choix, et si Suarez reste, ce sera très compliqué pour Koeman.
Là où c'est infernal et insoluble pour les dirigeants et pour le club de Barcelone, c'est que Messi, il est encore protégé parce que tous les supporters du Barça l'adorent, les sociaux l'adorent.
Est-ce que ça n'a pas changé, Gilles, avec cette
décision? Pour le moment, non. La presse commence un peu à se retourner, ça c'est la nouveauté, et la presse commence à dire, mais Lionel Messi, vous êtes gentil, vous vous plaignez du recrutement de Brick et de Broc, vous avez cité les mots exacts de Barcelone, mais où va l'argent de Barcelone? Chez vous. C'est votre salaire mirobolant qui fait qu'on peut pas recruter d'autres stars, puisque vous prenez tout. Donc ça commence un peu à se retourner. Donc il va être pris dans un étau. Tout le monde est étranglé. Ça va être un club de folie.
Florian.
Non, après, je pense qu'il faut absolument que Suarez parte. On l'a vu quand Daniel Alves a quitté le PSG, Neymar a connu une sorte de renaissance. Je pense que ça peut faire énormément de bien à Messi d'être un petit peu déstabilisé dans
l'équipe.
Isolé. Et après, de toute façon, cette saison, on sait qu'elle sera particulière parce que Koeman est là, mais on sait que l'année prochaine, Xavi va arriver normalement. Peut-être que Messi aussi peut se dire, bon allez, je fais une belle saison parce que l'année prochaine, il y a Xavi qui arrive, on va peut-être revenir dans une sorte de Barça un peu old school. Moi, je pense qu'il n'est pas mort pour le Barça, mais cette saison va être extrêmement compliquée pour tout le monde.
Surtout que Ronald Koeman, c'est pas Quique Setién. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même genre de personnage.
Ah, c'est pas Tata Martino. Hein.
Donc, non plus. Donc il va arriver là.
Voilà,
donc je veux dire, c'est quand même une personnalité. C'est un entraîneur avec un énorme charisme. C'est
aussi un entraîneur qui ne suit pas l'actualité au quotidien du Barça. Mais ça pose deux problèmes quand même. À l'arrivée, c'est de savoir qui est le patron, c'est le joueur ou c'est le club, la fameuse fameuse institution. Il semblerait que ce soit davantage, en l'occurrence, Messi. Hein? Et puis, quid de l'ambiance dans les vestiaires?
Je ne sais pas, parce que ça, on a beaucoup dit sur...
Et avec Griezmann, effectivement, qui se réjouissait peut-être intérieurement, même si officiellement, se réjouissait du contraire, du départ de Messi. Quand on a vu ce qu'a enduré Antoine Griezmann tout au long de la saison, on peut quand même se poser des questions. Les réseaux sociaux, c'est On fait le match à 19h16, émission 100% interactive. Vos opinions nous intéressent bien évidemment. Baptiste Durieux est là pour les relayer.
Absolument, Christian. Et le message de Bastien qui défend Lionel Messi. Messi a été admirable, nous dit Bastien. Il a été d'une extrême honnêteté dans son interview. C'était limpide et sincère. Ce qu'il a dit, c'est la pure et simple vérité, tout simplement. Et il a surtout décidé de ne pas aller au procès contre le club de son cœur. On doit continuer de respecter Lionel Messi. Et puis Daniel qui nous dit l'ambiance dans le vestiaire va être insupportable. Je pense que le Barça joue le maintien la saison prochaine.
Merci Baptiste, continuez à nous rejoindre. Et puis derrière la publicité, je vous donnerai une information. Finalement, Messi n'a pas beaucoup d'argent sur son compte en banque. Vous saurez pourquoi après ceci. Ah.
On refait le match sur RTL.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
19h18 avec David Aiello, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després. Pourquoi Messi n'a pas d'argent sur son compte en banque? C'est que tout simplement, bon, c'est pour plaisanter évidemment, il aurait pu racheter sa clause là, 700 millions d'euros, il en avait les moyens, non?
Mais
là je plaisantais.
Il a quasiment les moyens.
On est toujours premier degré.
100 millions par an, ça fait 15 ans qu'il joue.
Mais le train de vie,
il y a quelques problèmes avec le fisc, c'est vrai. Mais il aurait presque pu.
Le problème avec le fisc, c'est pas lui qui a payé. Absolument. Vous ne voulez pas me libérer, je n'attaque pas le club en justice, c'est mon club, c'est le club de toujours, je rachète ma clause, 700 millions.
Faut-il que ce soit légal? Mais effectivement, il a manqué de panache sur le coup.
Enfin, il a trois enfants, vous vous rendez compte quand même, c'est des frères.
Alors, la petite histoire, les trois garçons ont pleuré à l'idée d'aller. Oui. Comme si on nous faisait croire que les trois gamins allaient au lycée de Manchester. Ils seraient restés à Barcelone, enfin.
Les trois gamins, le plus jeune, je pense qu'il sait même pas ce que c'est que l'école. Donc c'est l'intermédiaire apparemment qui a posé problème. Celui qui s'appelle Thiago. Les Thiago ont du mal à bouger, vous avez remarqué.
Madame a pleuré également.
Madame, c'était terrible.
Elle a peut-être lu les propos de Madame Di Maria qui avait dépeint la ville de Manchester avec beaucoup de gentillesse.
Mais vous croyez qu'ils habitent vraiment à Manchester à minima,
tout dépend de la durée du contrat.
Ah non, ça fait quand même. Non, il y en a quand même.
Ah, venir en hélicoptère à l'entraînement et tout ça, Christian, vous pensez? Ouais, c'est compliqué quand même.
Il vit dans les banlieues vertes de Manchester.
C'est loin. C'est loin. C'est loin.
Alors l'institution, elle est mise à mal. Là. Je veux dire, c'est lui le boss, c'est lui qui décide.
L'institution Barça, c'est Messi. C'est-à-dire qu'il a fragilisé tout le reste de l'édifice. On dit parfois l'institution Real est plus forte que tout, mais au Barça, l'institution, c'est Messi. Il l'a prouvé là. Je pars. Ah non, je reste. Très bien. Koeman, donc fragilisé. Le président fragilisé. Les supporters, il les a à sa merci. Le vestiaire, ils vont se coucher devant Messi à l'image de Griezmann. Vous êtes obligés.
C'est quand triste Messi reste. Pour Antoine Griezmann.
C'est très triste pour lui, mais il a pas le choix. Il est otage des décisions de Messi. Et ça a dû être un ascenseur émotionnel épouvantable, quoi qu'ils disent officiellement. Parce que Koeman lui a dit « Ah voilà, tu as les clés du camion, tu es mon homme de base. » Et une semaine après, il va lui dire « Finalement, tu vas rester sur ton côté. »
Je suis pas d'accord avec lui, sur le côté institution. Au contraire, je trouve que l'institution du Barça s'en sent renforcée. Ils ont dit « Messi, tu ne pars pas. Mais si tu t'appelles Lionel Messi, même si tu as 6 ballons d'or, tu ne pars pas. » Parce qu'il y a l'histoire de la clause. Et puis honnêtement, il y a le Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas non plus jetés, ils ne sont pas empressés pour s'offrir Lionel Messi. Parce que ça coûte tant par an. Parce que c'est un montage financier qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous recrutez Messi, derrière vous recrutez plus personne parce qu'ils vous pompent tout votre argent, mais je trouve qu'il y a un côté réconfortant dans l'aspect où les clubs finalement sont renforcés de ça. On a vu avec Neymar l'année dernière qui voulait absolument partir au Barcelone, le PSG a dit non, alors après c'est un autre dossier, etc. Mais là aujourd'hui ils ont dit non, mais si tu ne pars pas, il n'est pas parti.
Je suis pas sûr que vous tiendrez le même discours quand tu auras le feu dans les vestiaires si les résultats
il y a quand même quelque chose qui va dans le sens de Baptiste qui est assez frappant. C'est que je veux bien qu'on soit dans la première évidence, c'est de se dire, il n'y a pas d'institution, c'est Messi qui a les clés du camion. Je veux bien, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Antoine Griezmann a débarqué contre la volonté de Léo Messi au Barça
la première fois, il était pour. D'accord. Quand Griezmann, c'est bien
effectivement. Mais ensuite, il lui a dit non, moi j'en veux pas, notamment parce que ça allait empêcher la venue le retour de son ami Neymar. Donc quelque part, il y a quand même des éléments qui vont contre cette idée d'un joueur qui serait omnipotent au sein du club.
Là, c'est un peu différent parce qu'il était pour l'arrivée de Griezmann la première fois, et quand Griezmann
a fait sa vidéo, produite par Piqué d'ailleurs.
Il n'empêche qu'il est quand même venu contre l'avis de Léo Messi. Ouais. Donc il fait pas non plus tout ce qu'il veut quand même.
Moi, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est que le Barça dise finalement, on va te vendre en fait.
tu veux rester, mais on va te vendre. Et moi, je pense que ce serait quand même aujourd'hui la logique du Barça de se séparer de Messi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une équipe à reconstruire. C'est quand même une équipe d'amateurs depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ça fait 5 ans qu'ils font absolument n'importe quoi, qu'ils recrutent n'importe comment, qu'ils surpayent des joueurs. Là, vous avez Coutinho qui va revenir l'année prochaine aussi, dans le genre. Donc, à un moment donné, peut-être que vendre Messi, c'était une opportunité de repartir sur une feuille un petit peu blanche. Voilà, on tourne la page Messi. On avait tourné Salignesta, Xavi, Busquets et compagnie. Et repartir, parce que le Barça doit se réinventer quand même. Et comment tu peux te réinventer avec un joueur de 33 ans?
Ah, bah non, mais le Barça doit se réinventer, mais c'est à la mode néerlandaise. On a connu ça avec Cruyff et puis tous les Néerlandais qui venaient jouer à Barcelone. Ronald Koeman, lui, est positionné en tant qu'entraîneur et il a l'intention de faire venir, ou il avait l'intention de faire venir des Néerlandais. Donc c'est une réinvention qui date déjà.
Oui, mais enfin, réinvention, je vais parler en tout cas, repartir sur autre chose. Cycle, quoi.
Je suis pas d'accord avec Florian parce que le seul bon joueur de Barcelone cette saison, c'est Messi. Qui d'autre? Si vous enlevez Messi au Barça, il n'y a plus qu'un gardien une défense extrêmement fébrile, un milieu de terrain qui ne sait plus faire trois passes et globalement des attaquants fantomatiques ou blessés. Sans Messi, il n'y a rien. Donc si vous vendez Messi, c'est plus un club à reconstruire, c'est un club en ruine.
Mais enfin, dans ces cas-là, Gilles, tu gardes Messi, tu vends les autres, alors il joue tout seul.
Bah non, mais toi, il a 33 ans.
Non, mais Gilles, il y a
34 ans, il va encore. Il est quand même Ballon d'Or. Hein.
Mais ils ont rien gagné.
Oui, mais il est Ballon d'Or.
Oui, mais Gilles, il a les stats cette année. Si tu veux, ok, il est super fort.
C'était champion.
Oui, mais là, ils ont rien gagné cette année.
Là, oui.
Oui, mais il y a quand même une autre dimension qui est pas évoquée là. Évidemment que ça reste un joueur exceptionnel et cette saison l'a encore prouvé. Maintenant, dans son positionnement au sein de l'équipe, dans ce que ça veut dire également dans quelque part, on l'a dit dans une formule qui est un petit peu qui raccourcit un petit peu les choses, mais c'est une réalité. Parfois, le Barça joue à 10 dans le repli défensif parce qu'il a 33 ans et qu'il marche.
Vous allez pas faire défendre Messi quand même.
Mais, non,
là,
mais
je vais le défendre. Non, mais, vous allez pas demander à Messi de se replier.
C'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, reconstruire, comme le disait Florian, sur ce joueur-là qui certes est un joueur merveilleux, mais qui, dans un projet, dans un projet collectif, a du mal à s'inscrire désormais. Moi, je trouve ça effectivement extrêmement périlleux.
Et parfois, le Barça jouait à 9 également, car le peu de ballons touchés sur le côté par Antoine Griezmann, c'est quand même là, pour le coup. Vous ne parlez pas d'Antoine Griezmann, mais je veux dire, il va devoir. Ou alors, c'est le nouveau porte-flingue de Messi, en l'absence de Luis Suarez. Et ça peut marcher aussi.
Un pacte entre les deux. Il faut un accord. Gagnant-gagnant, mais il faut vraiment une discussion au sommet pour aplanir. Moi, j'y crois difficilement quand même, parce qu'il y a une incompatibilité dans le jeu aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est que tant qu'il y aura Messi, Griezmann ne pourra pas être Griezmann.
Et à propos du jeu, il y a une chose moi, que j'aurais voulu voir et qu'on ne verra pas, donc à moins qu'il y ait encore un nouveau rebondissement, c'est Messi dans un autre club.
Ah oui.
Dans une autre équipe.
Oui,
dans une autre équipe.
Dans un an.
Et dans un autre championnat également.
Oui, mais à 34 ans.
Non, parce que c'est vrai que la perspective de le voir en Première Ligue, ça pouvait être intéressant.
C'était excitant.
C'était assez excitant. C'est pas, moi, Manchester City, c'est pas le club dans lequel je l'aurais forcément vu, même si évidemment il y a l'attrait de le voir retrouver Pep Guardiola. Je trouve que c'est un club qui est sorti de terre il y a 10 ans, qui manque un petit peu de panache pour un Léo Messi. Mais à côté de ça, le voir évoluer en Première Ligue, voir comment il se serait également soustrait un petit peu des... Parce que je peux vous dire qu'il aurait été accueilli de fort belle manière par les rugueux défenseurs anglais. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit regret.
Et après, à côté de ça, vous êtes tous des romantiques autour de la table. Je trouve que vous restez avec la même femme toute votre vie. Là, tu sur l'FC Barcelone. Mais ce que je veux dire, tout ça, après la boutade, c'est que ça va être aussi excitant de voir Lionel Messi dans le vestiaire de Barcelone, comment Koeman va l'utiliser, comment ça va se passer avec Griezmann. Il peut en sortir plutôt, je vais pas dire grandi, parce que ça reste Lionel Messi, c'est un joueur extraordinaire parmi les trois meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais j'ai envie de voir dans quel état d'esprit et comment il va être dans cette saison de Barcelone, s'il va justement mettre ses états d'âme de côté et s'il va se comporter en grand champion.
Après, j'aurais aimé le voir aussi triompher dans un autre club, comme Cristiano Ronaldo a su le faire, ce qui lui reste peut-être sur un plan, Laurent, supérieur à Messi.
Donc la question était la suivante, Lionel Messi reste finalement à Barcelone, jusqu'à nouvel ordre on va ajouter. Hein. Tout ça pour ça, mais finalement pour le meilleur ou pour le pire, Gilles Hermès.
Pour le pire.
Pour le pire.
Et bien là, je vais être d'accord avec Gilles, pour le pire.
David Aiello.
Florian Gazan
pour le pire
et Baptiste Després,
j'espère pour le meilleur.
Oh,
le
romantique.
Le romantique. c'est galvaudé pour eux, c'est galvaudé.
Une page de publicité, Damien, la réalisation, vos messages sur les réseaux sociaux, qui m'appelle? Ah, c'est Damien, donc il me répond. Avec le masque à peine audible, Damien.
Désolé, mais je dois le garder.
Mais oui, les gestes sanitaires, bon, bien sûr. Bon. Que fait-on? La publicité, et derrière la publicité, le Paris Saint-Germain, le coronavirus. Ah, fatalité ou manque de professionnalisme du côté parisien? A tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Non pas la dernière ligne droite, mais les 30 dernières minutes avant de retrouver bien évidemment toute l'équipe de Silvestro Castaldi pour Suède-France. Et à ce propos, n'est pas encore officiel, mais les informations fuitent de plus en plus en provenance de Suède. Ce serait Digne qui serait aligné à la place de Mendy côté gauche. Ouais. Pour le reste, l'équipe a annoncé, comme on disait jadis dans la presse, hein, dans les buts Loris, Upamecano, Varane, Kimpembe, Rabiot, titularisation de Rabiot, Kanté, Dubois, Griezmann, Mbappé et Olivier Giroud. Voilà, le seul petit, peut-être la petite modification, c'est Digne en lieu et place de Mendy. Bon,
c'était une incertitude d'ailleurs. Il y avait un doute. C'était le poste sur lequel on se posait la question.
Philippe Sanfourche à 20h nous confirmera évidemment toutes ces informations. Le Paris Saint-Germain, mesdames, messieurs, et le coronavirus. Fatalité ou manque de professionnalisme? Alors, je voudrais d'abord préciser, parce que ce sont des informations qui datent d'il y a moins de 24 heures, que la Ligue du football professionnel a pu recevoir une autorisation lui permettant d'assouplir son protocole. Mais alors là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand on avait 4 joueurs sur 8 jours, on va dire consécutifs, 8 jours glissants, c'était effectivement un report d'envisager. Mais alors là, c'est vous présentez 20 joueurs négatifs sur un effectif de 30 joueurs et vous pouvez faire tous les matchs sans report. Donc là, c'est le côté négatif qui prend le pas sur le côté positif. J'ai envie de dire la prévention sur tout le reste.
Pour moi, c'est grotesque. Ce protocole, il me rend fou. Quand vous êtes à l'école, dans une classe, vous avez un élève positif, on ferme la classe. Et on soigne et on teste. Maintenant, dans un club, vous allez pouvoir avoir 6 joueurs, 8 joueurs qui sont testés positifs. Ça veut dire que d'autres qui les ont côtoyés sont susceptibles quand même de transmettre. Eh bien, on va pouvoir jouer parce que 20 joueurs seront alignés. C'est grotesque, il aurait fallu durcir le protocole. La Ligue fait n'importe quoi et comment les autorités ont pu accepter ça? Le Covid revient et on laisse les joueurs comme ça aller jouer à Lens, n'importe où. C'est ridicule et dangereux.
C'est tout l'inverse du système de précaution.
L'inverse.
Sans doute très rigide qui a été mis
tous
en place.
Tous les jeunes vont retirer leur masque après en disant « mais regardez les joueurs de foot ». C'est incompréhensible pour le grand public.
C'est parce que le championnat doit continuer et on ne peut pas reporter les matchs.
Et puis ils ont trouvé un diffuseur qui a mis un milliard, donc il faut faire les matchs. Non mais c'est vrai, on se doute bien quand même que cet assouplissement du protocole par la Ligue, il est dicté par le diffuseur qui dit « les gars, vous êtes bien gentils, mais si ça continue, moi je skie au mois de juillet, quoi. À un moment donné, il faut jouer des matchs ». Mais on marche sur la tête, parce qu'une nouvelle fois, en plus cette histoire de 20 joueurs, mais quand vous avez des effectifs pléthoriques, c'est jouable, mais les petits clubs de Ligue 1, il va falloir les trouver les 20 joueurs, c'est le jardinier qui va jouer à un moment donné.
Non, vous tapez dans l'équipe réserve.
Ouais, mais vous rendez compte quand même, là du coup on va niveler encore vers le bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas un championnat qui a un niveau très élevé. Là, avec ce truc-là, on va se retrouver avec des matchs infâmes, quoi.
Dans l'équipe réserve, en précisant qu'au Havre, Ligue 2, à Marseille, Ligue 1, les centres de formation sont fermés.
Il y a autre chose qui m'embête un petit peu dans cette décision, c'est qu'on est parti sur un protocole. Au bout de 2 journées, on change. Et puis en plus, on change du jour au lendemain. Enfin, on a l'impression qu'on navigue à vue. Et ça m'embête un petit peu parce que je me dis, pour les clubs, pour les entraîneurs, enfin, c'est quand même extrêmement compliqué de s'inscrire dans la durée, d'avoir une politique sportive justement avec un protocole. On va rechanger encore dans 10 jours. Enfin, j'ai un peu de mal
avec ça. Parce que c'est le côté, Florian l'a dit, mais c'est le côté financier qui prime surtout sur la santé, parce qu'il faut absolument jouer ces matchs, parce qu'on a reporté Saint-Etienne contre Marseille en début de saison, et le calendrier et la Ligue veut pas que ça se reproduise. Donc c'est uniquement pour des raisons pécuniaires.
Alors on prend l'exemple du Paris Saint-Germain. Désormais, Neymar, Di Maria, Navas, Paredes, Marquinhos et Icardi peuvent jouer ou pas le match contre Lens?
Ah bah non, de toute façon, ils ont une période probatoire de 14 jours.
Ouais, 14 jours, ouais. Ça 14 c'est certain. Jours. Ouais, ouais.
Et sont testés positifs, eux ne peuvent pas jouer.
Oui, et puis oui. En plus, après, ils ne peuvent pas s'entraîner
tout le temps. Il y a un sauf quand même dans l'histoire, c'est sauf si dans l'espace de 48 heures, ils avaient 2 tests négatifs à la suite.
en l'espace de 48 heures. C'est-à-dire que si, comme on sait qu'en plus les tests ne sont pas toujours fiables et qu'en plus le virus est assez difficile à cerner, si Neymar faisait deux tests négatifs lundi et mercredi, il serait apte à jouer jeudi.
Alors, je le précise de nouveau, on l'avait fait pendant le confinement à ce micro. Il faut, faut faire preuve d'humilité. On n'est pas médecin, on ne sait pas tout là-dessus. Mais enfin, rien ne nous interdit de parler de ce dossier dans une émission de débat avec évidemment, je le répète, l'humilité et la plus grande prudence. Pour le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça donne comme image? C'est quoi? C'est un manque de professionnalisme ou c'est la fatalité parce qu'on s'aperçoit finalement que des cas de coronavirus, il y en a partout dans les clubs de Ligue 1?
Moi, je dissocie vos deux questions. Là, concernant le PSG, moi, tout simplement, je suis allé sur le site du ministère des Affaires étrangères, j'ai regardé l'Espagne, les annotations sont très claires, mise à jour du 5 août, valide aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement. Eh bien, aucune limitation à l'entrée sur le territoire espagnol, ni mise en quarantaine. Il y a quelques recommandations, mais les joueurs du PSG avaient tout à fait le droit d'aller en vacances à Ibiza. Ce sont des citoyens comme les autres. Moi, je critique tout le temps Neymar, mais là, il avait le droit d'aller là-bas. À lui de prendre des précautions. On dit même maintenant, attention, que la contamination aurait potentiellement eu lieu avant, chez lui, lors d'une soirée.
À Bougival.
Voilà, à Bougival. Donc, on n'est absolument pas sûr que ce soit lié aux vacances. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Moi, je serais aussi prudent que vous nous demandiez de l'être. Et je n'incriminerais absolument pas, sur bien d'autres terrains, oui, mais là, j'incrimine pas le PSG.
D'autant qu'on peut rappeler que, factuellement, il a été dit que Neymar se sentait en petite forme
dès son arrivée. Dès son arrivée. C'est pour ça qu'effectivement, j'insiste sur ce qu'a dit Gilles, il y a une prudence quand même parce que on parle sur un état de fait, sur quelque chose qui est un raccourci et qui est ultra évident. C'est on les a vus sur un yacht à Ibiza, donc forcément ils l'ont chopé là-bas.
Oui, mais alors attendez.
Il y a deux questions dans la question.
C'est juste pas possible. Ça,
alors dites-moi pourquoi
c'est
pas possible.
Parce qu'en termes d'image, c'était absolument.
Mais ça, c'est autre chose.
Mais c'est principal.
Mais non, parce que là, on est en train de faire un raccourci.
David, vous ne pouvez pas, avant la finale de la Ligue des Champions, faire une vidéo communication avec des joueurs et un entraîneur en demandant aux supporters de respecter la distanciation et d'utiliser les gestes sanitaires les plus utiles pour rester en bonne santé et ensuite voir ces mêmes joueurs sur des bateaux sans masque ou dans des villas privées. Christian. Coupe de champagne à la main et en train de s'enlacer.
C'est juste pas possible.
Non, mais... Je ne parle pas du devoir d'exemplarité. Je dis simplement un minimum de cohérence.
Oui, mais Christian, d'abord, la cohérence, ils n'étaient pas dans l'exercice de leur travail, ils étaient en vacances, donc ils font ce qu'ils veulent pendant les vacances. Deuxio, ils sont partis à Ibiza, où je rappelle, parce qu'on a l'impression que c'est youplaboum, les boîtes sont fermées. Le taux de contamination à Ibiza aujourd'hui, il est plus faible qu'à Paris, donc limite, c'était plus dangereux pour eux de rester en région parisienne. Je provoque un petit peu, mais enfin voilà. Et après, je pense que justement, eux, ils ont l'impression, ils ont été quand même pendant 15 jours sous une bulle, ils ont été testés tous les jours, donc entre eux, il doit y avoir une espèce de relation de confiance qui fait que, limite, ils avaient moins de chances de trapper quelque chose en étant entre eux qu'en partant dans leur famille. Et donc je pense que, quelque part, là on fait des raccourcis et qu'ils n'ont pas forcément été irresponsables. Et je vais finir juste un truc. Vous, en famille, pendant les vacances, en dehors, vous mettez le masque. Mais regardez, là, on est ensemble, si vous faites un barbecue avec votre famille, vous n'avez pas le masque, vous êtes ensemble et vous prenez des risques aussi. Voilà, ils sont dans un esprit de famille. Bon, je pense que, autant il y a plein de fois on pouvait leur taper dessus, sur ce coup-là je crois pas.
Je ne parle pas de l'exemplarité, Florian, parce que bon, on la met à toutes les sauces. Simplement, ça renvoie une image. S'il n'y avait pas eu le report du match Lens Paris Saint-Germain, ce problème ne se serait pas produit.
Mais moi j'ai un problème, c'est parce qu'une semaine après on peut jouer
d'une finale de Ligue des Champions, on n'est pas capable de jouer ça.
Mais Christian, c'est pas les joueurs qui l'ont demandé.
Christian, il y a quand même un problème, c'est que vous faites quand même un lien de causalité entre le fait qu'ils aient été là-bas à Ibiza sans masque.
Non.
En termes d'image, mais on ne sait pas. On parle d'une image dont on ne connaît pas les conséquences. D'autre part, je rappelle que par exemple à Strasbourg, ils sont pas partis en vacances à Ibiza. Il y a eu 9 joueurs qui ont été infectés. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là?
Mais tu le sais très bien que l'impact médiatique entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain n'est plus à démontrer. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Christian sur le côté en termes d'image, c'est déplorable. Pourquoi ça grince aujourd'hui au Paris Saint-Germain dans les étages? Parce qu'ils sont agacés par le comportement des joueurs. Le comportement qui est renvoyé. Alors effectivement, ils ont vécu dans une ville, mais comme tout le monde depuis X mois.
Donc ils doivent être exemplaires.
Au-delà de ça, on a tous, de façon plus ou moins forte, été irresponsables pendant l'été parce que.
Mais eux, ils ont pas
barbecue,
le droit.
Parce que. Mais c'est pas qu'ils ont pas le droit. Mais en termes d'image, tu dois envoyer autre chose. Ils ont demandé une semaine de.
Je trouve que vous
contradiction. Vous nous dites qu'il n'y a pas de devoir d'exemplarité, mais vous exigez que les joueurs portent des max H24 et peut-être que Leonardo soit derrière eux pour l'exiger.
Là, vous évoquez un sujet en disant c'est pour ça que ça grince au club à tous les étages. Moi, j'adore Leonardo, mais là, le club, excusez-moi.
J'ai pas fini, mais pardon, je te coupe deux secondes. Le club est fautif aussi. Le club est fautif là-dessus, sur le fait d'avoir demandé une semaine de report. Mais non, honnêtement, je suis d'accord avec Christian. Sur le côté, vous faites une finale des champions. Vous gagnez, vous perdez. Je suis d'accord, il y a un côté psychologique qui est prégnant, qui est important. On est tous d'accord là-dessus. Mais combien de clubs ont perdu des finales et après ont enchaîné sur leur championnat? Là, c'est une problématique.
Mais pas aussi vite, Baptiste. T'as jamais joué un match de championnat une semaine après une finale de Ligue des Champions.
Par exemple, tu regardes 93
avec le confinement, ils n'ont pas joué pendant 5 mois.
Mais Christian, tout le monde voulait
ont été traumatisés par le port du match.
Tout le monde voulait de ce report. Le PSG, Lens, la Ligue, tout le monde voulait de ce report. Il y a les supporters lensois qui ont été floués, mais tout le monde voulait de ce report, Christian. Après, je reviens sur ce que je dis autour du club. Le club, là, ça grince effectivement à tous les étages. Par rapport à cette image jugée, j'entends parfaitement, notamment par Christian, déplorable. Mais le club du PSG, toutes les soirées de Neymar en avant, toutes les fêtes de Neymar, toutes les incartades de Neymar, ils ont toujours couvert pratiquement ça. Donc là, parce que c'est public, on dit ah là là, le yacht à Ibiza et tout ça. Yacht, d'ailleurs, yacht, ça veut dire quand même, Christian, en mer, hein, à l'espace libre. C'est encore une fois, c'est pas des soirées recluses à 50 personnes comme les anniversaires de Neymar.
Ouais, enfin, ils étaient largement plus de 10 sur le yacht.
On est d'accord. Alors, les soirées, quand Neymar fêtait son anniversaire, il n'y avait pas le Covid, mais on disait... juste titre, on disait, il fait n'importe quoi, Neymar, il sort. Le club couvrait. Et là, parce que le club est un peu mis en difficulté, à l'intérieur du club, c'est vrai, ça grince beaucoup.
Moi, je trouve que le club, on est quand même en train de dire que... c'est très grave d'avoir montré des photos sur un yacht sans masque, alors que peut-être, et peut-être c'est une vraie hypothèse, peut-être que la cause de la contamination, c'est avant cela, dans une fête chez Neymar
David,
en
c'est
France.
Pour cela qu'on a pris toutes les précautions.
Je trouve qu'on fait des raccourcis. Je trouve qu'on
il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de procès d'intention, il y a simplement un état de fait. Des joueurs qui ont recommandé à leurs supporters de faire attention aux gestes les plus élémentaires, les gestes sanitaires.
Mais comme
avant
dit Florian, c'est des vacances, je veux dire, personne n'a été parfait là-dedans.
Mais personne, Christian,
est-ce que vous avez porté le masque H24 pendant vacances?
Je ne suis pas Neymar, je ne gagne pas 50 millions d'euros.
Donc à 50 millions, on doit porter le masque tout le temps.
Christian, moi j'ai vu il y a 15 jours Cristiano Ronaldo sur un yacht avec plein d'amis sans masque en train de s'enlacer. Voilà, alors donc Cristiano Ronaldo lui aussi est irresponsable.
La publicité, les réseaux sociaux, on reviendra encore 5 ou 6 minutes sur le cas du Paris Saint-Germain et on parlera aussi des autres cas, car effectivement, vous avez raison, d'autres clubs moins médiatisés, ça c'est peut-être aussi de notre faute, moins médiatisés, sont effectivement sujets à ces cas de gestion du coronavirus. C'est un état de fait, publicité.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL avec Christian Olivier.
La suite et la fin du dossier Paris Saint-Germain et des autres clubs de Ligue 1, le coronavirus, en compagnie de David Aiello, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després. Les réseaux sociaux, vos avis également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte RTL Foot sur Twitter.
Absolument, Baptiste. Christian, ça fait toujours réagir comme Marc qui nous dit si on ne veut pas terminer la saison en 2024, on est obligé de mettre en place ce protocole pour reporter le moins de matchs possible. Au moins, la règle est très claire. Et puis le message de Lionel, insupportable des critiques envers les joueurs parisien. À ce moment-là, on interdit tout, les vacances et puis tout le reste aussi sera autorisé, uniquement la route entre le salon et les toilettes et entre la maison et le camp des loges dans une ambulance stérilisée. C'est ridicule, nous dit Noël.
Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Donc, les vacances, tout va bien. Le report, on n'aurait peut-être pas dû, mais le report, il faut l'assumer. Pas de problème de gouvernance. Qui autorise les vacances? On n'en sait rien. Pas moyen de mieux baliser ses vacances? Non, donc tout va bien.
Bah tout va bien, non, parce qu'ils sont positifs, mais moi je suis pour une fois indulgent avec les joueurs du PSG.
L'indulgence, c'est le début de la faiblesse.
Oui, peut-être, mais je l'assume et il faut l'assumer. Et d'autre part, je dis que le PSG est aujourd'hui un cluster, que d'autres clubs sont des clusters et qu'il est inadmissible que un cluster soit autorisé à jouer sur le terrain d'une équipe comme Lens. Voilà. Quand on a un cluster, on se cloisonne, tout le monde est protégé, comme dans une école. On ferme la classe.
Gilles, c'est ce qu'ils ont fait, là. Ils ont quand même fait les tests, plusieurs tests, et puis derrière, ils ont commencé l'entraînement. Déjà, ils ont décalé la rentrée au camp des loges pour faire à nouveau des tests, et aujourd'hui, il y a quelques jours, ils ont commencé leur entraînement au camp des loges. Il faut bien qu'ils reprennent à un moment ou à un autre pour tous ceux qui sont négatifs.
Et on est presque
là-dessus, il y a quand même des précautions. Moi, je mets le club en 14.
Et on est le club en 14.
Ah oui.
Bah, à ce moment-là, du coup, on fait
comme
plus rien.
Bah, on fait plus rien pendant 14 jours. Non, mais moi, j'assume et je reporte le calendrier. Voilà.
Gilles, si on fait ça, il n'y a plus de Ligue 1.
Bah, il n'y a plus de Ligue 1.
La Ligue 1, elle est comme ça, vous êtes pour ce proto.
Alors, vous êtes pour Conjo, vous.
Ah
vous,
oui
vous dites. Ah, bah, alors voilà. Bah, alors quand. Non, mais alors là, Christian, vous allez dire quoi vous allez... Tout à l'heure, vous disiez qu'ils auraient dû porter un masque. Donc là, les gars, soyez logiques. Donc là, maintenant, fermez. Alors, je ne vous comprends plus, là. Tout à l'heure, on vous dit, qu'est-ce qui se passe à Ibiza? Vous êtes d'accord? Et maintenant, vous dites, on n'a qu'à jouer, alors jouons. Ils sont tous malades, on joue alors.
Mais non,
on transmet tous le virus.
Mais non, justement, les positifs.
Vous avez une politique sanitaire à double détente.
Non. Les positifs ne jouent pas. Il y a la quatorzaine et après, derrière, il y a quand même des tests qui sont faits énormément avec les joueurs de foot. Aujourd'hui, on va pas. Il y a quoi? Il y a un groupe de 30 joueurs au Paris Saint-Germain. Il y a 6 joueurs, effectivement, qui sont positifs. Donc derrière, pourquoi les 25 autres peuvent pas jouer au football?
Mais comment vous savez précisément que... Alors,
bah, là, il y a c'est à la lecture de la communication du PSG. Ouais, si vous dites que le PSG, c'est autre chose.
On va élargir un peu le débat, parce que les résultats, les tests, la communication, regardez ce qui se passe avec Steve Mandanda. Steve Mandanda, voilà, qui a été positif à Marseille, qui a été mis en quarantaine, qui a été soigné, qui n'était pas gravement malade, qui
vient en équipe de Brest.
Pardon ?
Il avait joué à Brest.
Oui, oui.
Donc, il était guéri.
Parce qu'il était négatif,
oui. Oui, mais guéri, et il arrive à Clairefontaine, test, il est positif. On nous explique, oui, mais il peut y avoir des résidus qui, dans le nez, etc. Donc là, tout est sujet à caution.
Et personne n'est capable. Didier Deschamps était ennuyé. Il y a une rivalité entre les staffs médicaux de l'OM.
Ça s'est calmé, franchement.
Oui, mais c'est hyper compliqué. Personne n'est capable précisément de savoir ce qui s'est passé. Donc, excusez-moi, vous êtes des pompiers pyromanes, vous deux, David et Baptiste. Parce que vous dites à la fois, allons-y, jouons.
Mais non, mais Gilles, c'est juste qu'à un moment,
c'est quelque chose. Il faut aller à Ibiza, ils ont le droit de prendre des vacances. Et maintenant,
Gilles, jouez à Ibiza. Vous qui êtes sans masque, vous qui avez des posters de Didier Deschamps dans vos toilettes.
Ah bah oui.
Vous êtes un fan du pragmatisme. À un moment, le pragmatisme, il est aussi économique. On a un championnat, on a des clubs qui sont.
Vous êtes donc rallié à l'argent, très bien.
Bah oui,
vous êtes le Messi dans le match.
L'argent, ce n'est pas sale, j'ai dû vous dire. Et les clubs français en ont besoin. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut trouver un juste milieu entre la sécurité sanitaire et la réalité économique. Et la réalité économique, c'est que les clubs français ont perdu 400 à 500 millions avec la crise.
On refait le masque.
Ah oui,
sur l'antenne de RTL, 19h40 Suisse. Il y a d'autres clubs en Ligue 1 qui sont concernés, mais évidemment moins médiatisés. En revanche, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de cas positifs en Allemagne actuellement, ou en Espagne. En tout cas, ils ne sont pas annoncés comme tels. Donc quel est le problème?
Ceci dit, ils n'ont pas vraiment totalement repris dans les championnats étrangers.
Nous, ils s'entraînent.
Oui, ils s'entraînent. Enfin, nous, de toute façon, on est tout en décalé. On arrête avant les autres, on reprend avant les autres. On est en jet lag permanent de compétition. Et bon, ça pose aussi la question de la Ligue professionnelle de football. Enfin, la Ligue de football professionnelle, je ne sais plus, parce qu'elle n'est pas très professionnelle, cette Ligue de football.
Arrête, Florian.
Non, j'arrête pas. Moi, je suis désolé, mais déjà, une Ligue qui décide de reprendre le championnat le week-end de la Ligue des Champions, partant du principe qu'aucun club français peut aller en finale, je pars du principe, déjà, il y a un problème de base. Et le problème des reports, il part de là, parce que le premier reporté, c'était PSG Metz.
Je suis entièrement d'accord avec Florian, on est les premiers à arrêter. On arrête tout le football, plus de football, et là maintenant on joue avec des clubs qui sont des clusters. Mais c'est absurde. On arrêtait tout, alors oh là là, au nom de la précaution, et moi j'étais pour, et on reprend alors qu'il y a 6 contaminations dans un club. Délirant.
Messieurs, hommes de médias, on en fait trop sur le PSG et le coronavirus, parce qu'on se prend vraiment des messages, des briques tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous en faites trop avec le PSG, d'autres clubs sont concernés, vous ne parlez que du Paris Saint-Germain, ils ont le droit de partir en vacances. Vous avez entendu les messages de Baptiste Durieux, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est la caisse de résonance médiatique habituelle du Paris Saint-Germain. Quand tout va bien, ça prend aussi des proportions affolantes, tous les médias sont centralisés sur Paris. C'est aujourd'hui aussi le club le plus populaire de France. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça.
Les médias sont centrés sur Paris. Il y a la PQR, la presse quotidienne régionale, quand même.
La presse nationale, elle est à Paris. Donc, oui, ça, forcément.
On les accuse trop vivement pour moi. Oui. Mais bon, ils n'avaient qu'à pas perdre en finale. Donc, du coup, maintenant, les passions se déchaînent contre eux.
Alors, Paris Saint-Germain, coronavirus, fatalité ou manque de professionnalisme. Là, c'est pas oui ou non, c'est fatalité ou manque de professionnalisme, Baptiste Després.
Un peu des deux,
mais plus de fatalisme, je pense.
Florian Gazan, Gilles.
Fatalité.
60-40, fatalité.
David Aiello, merci. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À 20h, ce sera la grande soirée RTL Foot et l'intégralité, évidemment, de Suède-France. Une nouvelle page de publicité et derrière la publicité, la nouveauté dans Fait le Match, que le monde entier nous envie, la séance de tir au but. Alors, je précise pour les auditeurs, c'est une série de questions liées à l'actualité. Mais je ne vous ai absolument pas évoqué toutes ces questions, vous ne savez pas.
Non.
Et donc, on va voir si vous avez...
Les jambes qui tremblent.
Les jambes qui tremblent, ou si vous avez du mental pour répondre le plus vite possible. C'est pas un quiz, il faut argumenter derrière. Publicité. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 10 dernières minutes, on fait le match avec David Aiello, Gilles Verdez, Florian Gazan, Baptiste Després. À propos de pénalty et de tir au but, plutôt de pénalty, l'Islande en a manqué un, je crois, en fin de match. Et l'Angleterre a battu l'Islande sur le score d'un but à zéro, me signale Damien à la réalisation. La séance de tir au but. Donc, question d'actualité. Attention, en vrac, hein. Mais il va falloir argumenter, les amis. Alors, là, je suis obligé de prendre ma petite fiche hein, pour bien énoncer les questions d'actualité qui m'intéressent et que le grand public nous reprocherait peut-être aussi de ne pas évoquer. Football féminin. Les Brésiliennes obtiennent le même traitement de salaire que celui des hommes. Est-ce que vous êtes OK pour voir la même chose entre l'équipe de France de Deschamps et celle de Corinne Diacre?
Moi, je suis assez d'accord.
Ah, non. Ah. Le coup de sifflet.
Ah, mais oui, c'est
le
Il est trop tard.
C'est retiré. Deuxième chance.
La VAR.
Le gardien du
but. C'est pas grave. Non, moi, je trouve que oui, moi, je serais assez favorable parce que, alors, évidemment, il y a l'argument, mais les filles rapportent beaucoup moins que les garçons. D'accord. Là, on n'est pas là-dedans. Pour moi, on est dans les symboles.
Pourquoi on n'est pas là-dedans?
Parce que, je t'explique. Parce que, pour moi, aujourd'hui, on est dans les symboles. Et c'est important à un moment d'avoir ce genre de symbole. On dit beaucoup que le Brésil est un pays machiste. C'est peut-être un pays machiste. La Seleção, l'équipe masculine, a un poids incroyable au Brésil. Il n'empêche qu'ils ont pris une décision symbolique, forte, qui doit faire avancer les choses. Donc moi, pour cette raison, on doit faire la même chose en France.
Bon, non.
Moi, je vais rajouter quelque chose, mais on va dire encore un poil de démagogie de la part de David, parce que je trouve.
C'est après, un ami, heureusement.
Mais non, un ami romantique, en plus. Mais de l'autre côté, on.
Qui effectivement, porte pas de masque.
Si toi, la société des années 50 te va très bien,
moi, j'ai pas de
problème. Je sais ce qu'on va me rétorquer, mais c'est incomparable. C'est incomparable.
Mais on est dans le symbole.
C'est juste le symbole, ok. La vie est faite. Ok, il y a que des symboles tout le temps.
On va vous rétorquer quelque chose de très simple. Vous êtes sexiste.
Mais voilà, je sais. Mais effectivement, on va me dire ça.
Femmes, bon, vous êtes sexiste.
On va passer à un autre sujet.
Mais non, mais les arguments sont. Tu les connais, les différents. Les arguments.
Il y a surtout une réalité, c'est qu'économiquement, c'est impossible. Vous baissez les garçons pour relever les filles. Si vous mettez les filles
au Brésil, c'est possible.
Oui, c'est d'accord. Mais là, on parle en général.
C'est pas impossible. Aujourd'hui, la fédération, elle a un budget, elle a un énorme budget. Il suffit de récalibrer. On parle pas de 25 millions d'euros de
baisser le salaire des joueurs.
Non, je te dis juste. Tu rééquilibres
ton deuxième tir au but. Deuxième tir au but. Alors, vous le savez, cette semaine, la Ligue du football professionnel, Florian Gazan, a demandé à l'État une indemnisation d'au moins 100 millions d'euros pour compenser la jauge maximum des 5000 spectateurs dans la salle. Et puis, dans le même temps, Jean-Michel Aulas, lui, a réclamé une indemnité également identique à la Ligue du football professionnel pour préjudice subi à cause notamment, mais pas seulement, de l'interruption du championnat. Pour ou contre ?
Moi, je suis pour. Je suis pour que les demandes se fassent, parce que c'est très bien que chacun puisse aller au bout de son argumentaire. Si des gens se sentent floués, il faut le faire. Après, il y a sans doute des raisons politiques à ce qu'a fait Aulas. Je suis pour qu'on aille au bout de l'argumentaire, mais j'espère que les primes ne seront pas versées, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais c'est très bien qu'ils puissent, comme ça, monter leur dossier.
Vous êtes plutôt d'accord là-dessus ? Troisième tir au but. Le Lyonnais Geoffrey Adélaïde évoque un départ du club, estimant qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Vous comprenez ça, ou vous trouvez ça indécent ?
C'est aberrant. Pour moi, c'est aberrant. Enfin, Geoffrey Adélaïde, c'est un super joueur de foot. Il a été Angers, il a été Arsenal. Là, il a été quand même, pourquoi, 20 ou 25 millions d'euros recrutés par Lyon. La patience. Je sais pas si son entourage connaît le mot patience. Il y a Oussem Aouar qui va sans doute quitter l'Olympique Lyonnais. Il est amené à remplacer Oussem Aouar. Tout ça parce qu'il a pas joué un petit peu en Ligue des Champions. Tout ça. Il revient aussi d'une blessure quand même assez grave. Donc, je trouve que ce garçon et son entourage, surtout l'entourage, manque de patience.
Ok là-dessus.
Ouais, ok.
Ouais, ah, allez. Ouais. 1, 2, 3, 4. Quatrième tir au but.
Ça devient dur là.
Le gardien de but, précisément, Stéphane Ruffier à Saint-Étienne, qui a été mis un peu de côté depuis pas mal de temps par son entraîneur Claude Puel et les dirigeants, a reçu une lettre recommandée ces derniers jours pour un masque coronavirus mal porté. Mm-hmm. Harcèlement scandaleux de la part des dirigeants de la Saint-Étienne ou tout est normal
Tout est normal. Tout est normal. Il se met en permanence en marge des règlements internes du club pour provoquer. Donc il est sanctionné.
Je suis pas totalement d'accord. T'as l'impression qu'il y a un peu deux poids deux mesures à Saint-Étienne, que c'est devenu le bouc émissaire. T'as l'impression que si un jour il passe par la gare de Lyon, il sera sanctionné parce qu'il a joué à Saint-Étienne, et que là il cherche vraiment à tout faire pour lui faire péter les plombs.
Et il les pète vite.
Non,
les plombs.
Mais en plus oui, je trouve que ça donne pas une bonne image du club. Enfin, ça fait pas une direction. Tu vois, quand tu fais pas des petits trucs comme ça un peu mesquins, voilà. Soit tu sanctionnes plusieurs joueurs parce qu'effectivement, mais il y a un problème de règlement là-dessus. Mais s'acharner, enfin, il y a un côté acharnement qui pour moi fait petit.
Ça rappelle le PSG. PSG avec Rabiot, comme ça on pourra pas dire qu'on dit toujours du bien du PSG, mais c'était un peu ça.
On va revenir à parler de la Saint-Etienne.
En plus.
Cinquième tir au but.
Allez.
Le latéral japonais Nagatomo, 34 ans, est présenté comme la première recrue de choix par l'Olympique de Marseille.
De choix, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ou
non.
Qu'ils ont pu choisir.
De qualité. De qualité. Vérité ou poudre aux yeux?
Non, mais je trouve que là, vous faites un petit peu, pour le coup, un raccourci. Ça a été présenté, déjà, ça a été dit clairement par André Villas-Boas, comme le remplaçant, la solution numéro 2 derrière Amavi. Donc, c'est un joueur qui a eu une très belle carrière, qui a notamment du côté de l'Inter, a eu une longévité intéressante. Là, aujourd'hui, c'est son expérience qui peut être profitable au club, et on n'a rien vendu d'autre. Donc,
poudre aux yeux total d'un club qui n'a pas les moyens de ses ambitions et qui refuse de l'admettre.
Mais il n'y a pas de poudre aux yeux, puisqu'ils ont dit que c'était un numéro 2.
Ouais, mais une forme d'incohérence aussi, parce que je crois qu'ils avaient arrêté de recruter des joueurs de plus de 30 ans, genre Strootman et compagnie, et là ils prennent un latéral de 34.
Bon. Ça montre surtout que le mercato de Marseille va être extraordinaire cette saison.
Allez, pour le plaisir, un sixième tir au but.
Décisif.
Décisif celui-ci, attention. Jeudi prochain, élection à la présidence, Florian Gazan de la fameuse Ligue du football professionnel.
Ah oui, alors, pas la Ligue professionnelle du football.
En piste, il y a 5 candidats.
Ouais.
Dans le désordre. Hein. Mmh. François Morinière, ancien homme de presse. Mmh. Michel Denisot, ancien homme de presse et télévision.
Et de football, quand même.
Et Michel de football. Et Gervais Martel, qui a démissionné d'ailleurs de ses fonctions de Châteauroux cette semaine. Conseil d'administration, etc. Gervais Martel.
Ancien président de Lens, quoi.
Oui, et puis maintenant sur la chaîne d'équipe. Vincent Labrune, homme de médias également, président Olympique de Lens, etc. Et Alain Guérini. Alors Alain Guérini, c'est le propriétaire
des vignettes.
C'est les vignettes, c'est Panini. C'est
l'enfance. Intéressant. Ouais. Ouais.
Alors, tout cela, gouvernance du football à revoir du sol au plafond?
Bah totalement, mais là il faut que ça change. La Ligue, je suis assez d'accord avec Florian, composée d'incapables. Donc maintenant on va avoir un professionnel. Si c'est Denisot, on aura enfin quelqu'un qui connaît le métier. Si c'est les autres, ça risque d'être pire que ce qu'on a aujourd'hui.
Michel Denisot, François Morinière sont de très très bons professionnels. Hein.
Bon, alors personnellement, moi je vote Denisot et je
vote
pour Morinière.
Non,
moi
je ne vote pour personne.
Non, moi je vote pour Denisot, mais je ne vote pas. Mais
non, mais derrière il y a des projets. On sait qu'avec Monsieur Morinière, qui est poussé par Nasser Al-Khelaïfi et un peu Jean-Michel Aulas, il y a l'idée de refondre la Ligue, d'en faire quelque chose de professionnel et commercial. En gros, que la Ligue appartienne au club, comme ça se passe en Angleterre, en Allemagne. Donc voilà, une vision un peu différente du football. On peut pas leur donner tort parce qu'on a eu comme une tellement grande cacophonie dans cette Ligue avec cette crise du coronavirus qu'à un moment donné, il faut changer les choses.
Élection à la LFP, ce sera jeudi prochain. On fait le match. Troisième. Édition terminée. Merci de votre participation, messieurs. David Aiello, Gilles Verdel, Florian Gazan et Baptiste Després. Bienvenue pour une nouvelle émission. S'installe, arrive dans ce studio Eric Silvestro.
Avec des masques qui ne reviennent pas des visas.
Bonsoir Eric Silvestro.
Et je salue monsieur Guérini, c'était mon ancien patron.
Le vendeur
quand j'ai fait les vignettes Panini, vous ne saviez pas.
Ah, j'ai des doubles, c'est marrant.
Voilà une belle information.
J'ai beaucoup de doubles.
Comme quoi, le journalisme mène à tout.
Exactement. J'en ai fait des fiches.
20h-23h, un joli programme, on va se régaler.
Ah bah, Suède-France, premier match d'Ligue des Nations pour les Bleus, évidemment.
La publicité, 20h-23h, RTL Foot. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Le foot continue, merci à Damien pour sa réalisation.